La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui va être à la fois littéraire et historique puisque nous accueillons Isabelle Stieb qui vient de faire paraître aux éditions Robert Laffont dans la série Le Passe-Muraille, un roman qui s'appelle Le roman ivre. Et ce roman ivre commence au XXIe siècle de façon tout à fait plausible, tout à fait vraisemblable avec l'histoire d'une jeune femme dont on apprendra qu'elle vit avec un jeune homme, qu'elle se destine à la noble profession d'avocate alors que le jeune homme il est prof de lettres et qu'elle se fait agresser en rentrant chez elle. Et par une sorte de tour de passe-passe incroyable, se faisant agresser, elle quitte notre 21e siècle pour se retrouver dans la première moitié du 17e au milieu des trois mousquetaires et face peut-être au plus séduisant d'entre eux, Athos. Alors, avant d'en venir à Athos, on va écouter justement comment ces trois mousquetaires ont nourri tout un imaginaire qui dit facilement tous pour un pour tous, ou même en garde.
En garde ! Un instant, messieurs. Si vous le permettez, nous serons quatre.
Votre nom, monsieur ?
D'Artagnan.
Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant !
Toi, embrasse-moi.
Et surtout ne me fais pas mal à l'épaule.
Nous sommes donc amis?
À partir de maintenant, nous le sommes à la vie, à la mort.
Tous pour un. Un pour tous.
Bonjour Isabelle Stieb.
Bonjour.
On vient d'entendre donc l'extrait d'une série télévisée des années 60 qui reprenait les trois mousquetaires et qui en une trentaine de secondes nous donne un petit peu tous les clichés de cette histoire qu'on connaît bien avec un pour un pour tous et tous pour un. Tout le monde connaît cette phrase qui apparaît à peine d'ailleurs dans Alexandre Dumas,
mais c'est
la postérité qui en a fait une phrase connue.
Mais je crois que c'est ça qui est formidable avec les trois mousquetaires, c'est que même si on l'a pas lu, en réalité tout le monde le connaît et tout le monde dans la cour de récréation, je crois, enfin je pense que ça se fait encore un petit peu, joue à D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Parce que qu'est-ce que c'est les trois mousquetaires? C'est avant tout une formidable histoire d'amitié à la vie à la mort, ce que représente justement cette formidable devise. Et avec une caractérisation des personnages des quatre mousquetaires qui est si bien faite et si diverse que finalement chacun peut se reconnaître dans l'un ou l'autre des personnages. Et c'est vrai que quand on demande aux gens, alors vous, quel est votre préféré, très souvent, il y a un nom qui vient immédiatement à l'esprit et qui n'est jamais le même pour tout le monde.
Oui, enfin quand même, il y en a deux qui reviennent beaucoup. Les garçons aiment D'Artagnan et les filles aiment Athos.
Ah, vous croyez?
Non, je ne crois pas, j'en suis sûr. Athos, c'est le beau ténébreux, il est un peu plus vieux, il a une vie derrière lui, dans les trois mousquetaires.
Il a une vie
mystérieuse, une femme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, il a eu le cœur brisé. Il y a quelque chose qui fait rêver plus les jeunes filles que les jeunes gens. Et D'Artagnan, on veut être D'Artagnan parce qu'on veut être pompier, quoi. Quand on est un petit garçon.
Oui, je suis pas sûre.
Je voulais être pompier, je voulais être D'Artagnan, ça c'est sûr. Hein.
Oui, mais je suis pas sûre. Moi, j'ai entendu justement des réponses très très diverses. Des personnes qui se reconnaissent plus dans Aramis, qui pour moi, au contraire, est le personnage le moins attachant parce que il est un peu.
On ne sait
jamais exactement ce qu'il pense. Il y a cette hypocrisie qui prend quand même beaucoup beaucoup le dessus. Et je connais plein de filles ou de femmes qui adorent D'Artagnan pour son côté. C'est vraiment l'aventurier dans toute sa splendeur.
Vous n'en connaîtrez pas tellement qui vous diront « je voulais être Porthos ».
Mais il y en a.
Tout le monde a un grand cœur pour Porthos, qui lui-même a un grand cœur pour tout le monde. Tout le monde pleure à la mort de Porthos.
Dumas lui-même,
oui, mais bon, c'est pas le seul. Hein. Il a inauguré une grande série. Et vous, donc, vous avez écrit un roman qui joue à la fois avec les codes littéraires et qui joue avec les personnages littéraires. Est-ce que c'est au début ça qui vous a guidé ? Est-ce que vous avez voulu monter une histoire et monter des personnages qui fassent penser un petit peu à un jeu de cartes qu'on est en train de battre ?
Alors c'est venu au fur et à mesure, mais c'est vrai que très très vite, ce qui a été sûr, c'est que je ne voulais pas faire que un roman d'aventure, une espèce de pastiche de Dumas. Ce qu'il faut rappeler, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait partie d'une collection qui s'appelle Les Passe-Muraille.
Et Passe-Muraille est une image qui revient. C'est pour ça que j'ai noté le nom de la collection,
parce que justement,
qui revient plusieurs fois dans votre livre.
C'est vrai, c'est le titre de la collection, et moi j'ai vraiment voulu prendre cette expression au pied de la lettre. D'où ces va-et-vient entre le 21e siècle d'aujourd'hui pour cette héroïne qui s'appelle Camille et qui est avocate, et puis ces incursions, puisqu'elle passe à travers la muraille, dans le 17e, qui est un 17e en réalité fantasmé par Dumas au 19e siècle. Mais donc très vite, j'ai voulu que ce ne soit pas qu'un livre d'aventure, que ce soit plus que ça, que ça déborde pour atteindre un petit peu enfin pour explorer cette notion de personnage de roman. Qu'est-ce que c'est exactement que ce personnage qui fait que, enfin cette figure littéraire qui fait que à la fois le lecteur va s'y attacher, et c'est le cas notamment avec les héros de Dumas où depuis l'enfance finalement ils deviennent un petit peu nos compagnons. Et puis qu'est-ce que c'est aussi pour un auteur finalement, parce que pourquoi est-ce que on arrache du temps à son travail quand on en a un autre que celui qu'écrire, pourquoi est-ce qu'on arrache du temps à sa vie de famille ou à sa vie amoureuse, enfin pourquoi tout ça pour rester devant son ordinateur ou sa feuille de papier et construire des personnages qui n'existent même pas. Et c'est pour ça que dans le roman finalement on a trois temporalités: la temporalité du 21e siècle, la temporalité du 17e, et puis la temporalité aujourd'hui du livre en train de s'écrire, avec des réflexions de la fille de l'auteur qui lit le livre qui est en train d'écrire sa mère par-dessus son épaule, et ce qui suscite chez elle une foule de questions, de remarques aussi pas toujours agréables, par exemple oh, mais pourquoi tu mets ce passage, on n'en a rien à faire, les lecteurs vont sauter, tu peux couper, voilà des choses comme ça. Je voulais vraiment qu'il y ait un petit peu ce côté, le roman du roman.
Alors, le roman du roman, on le voit tout le temps dans votre livre, justement, puisque précisément cette interrogation sur un personnage nous vient d'un autre personnage qui est tout aussi fictif.
Oui, c'est
ça. Parce que même si votre héroïne, Camille, elle vous ressemble un peu, j'en sais rien, c'est possible que non, mais en tout cas, c'est un personnage de roman. Et c'est à partir de sa réflexion à elle, de son étonnement et de son basculement dans le fantastique et dans un autre siècle, que justement, on va se poser la question de qu'est-ce qu'un personnage de roman ?
Oui, absolument, parce que en fait, on parle toujours du réel et de la fiction qui se croisent dans un roman ou dans les romans de Dumas, parce que lui faisait ça très très bien et ô combien. Mais c'est vrai qu'on en vient à oublier que le réel est aussi du fantasmé et du roman. Et ça m'amusait beaucoup ce jeu où non seulement le réel et la fiction se croisent, mais que on est dans un jeu un petit peu vertigineux où finalement on ne sait plus trop au bout d'un moment si on est dans le réel ou si on est dans la fiction ou encore dans un troisième espace-temps.
Thank you. Avec cette musique, c'est une nouvelle ombre portée des Trois Mousquetaires sur l'époque contemporaine, puisqu'elle vient du Cyrano de Bergerac, le film tourné par Bertrand Tavernier, avec cette musique de Jean-Claude Petit. Alors, Isabelle Stieb, puisqu'on parle justement des Trois Mousquetaires et de leur irruption dans votre roman, est-ce que vous accepteriez de nous en lire un petit extrait au moment où justement on va voir cet effet de bascule ?
Avec plaisir. Donc ça commence au moment où Camille se fait agresser. C'est donc cela, mourir ? Cela paraît si simple. Et le fil de vie à trépas si ténu. Un sursaut quand même à l'idée d'être conduite à la morgue où on la disséquera pour que soient consignées dans un rapport clinique et glacé les circonstances de son meurtre. Allons, si sursaut il y a, c'est que la grande faucheuse n'a pas encore sonné son heure. Un peu de fraîcheur tout à coup, un mouchoir imbibé d'eau sur son front et une voix grave, vibrante, qui s'exclame « Les lâches ! S'en prendre à deux contre un !» Camille sent une main gantée s'emparer de la sienne. « Pouvez-vous vous lever, monsieur ? Diantre, on y voit goutte. Grimaud, apportez de la lumière et tâchez de retrouver l'épée de monsieur. » Ma foi, les coups étaient rudes et la douleur doit être atroce. Cependant, les plaies me paraissent superficielles, je m'y connais un peu en blessure. Comment vous nommez-vous, jeune homme ? Camille de la main, je suis une femme... Oui, une famille illustre, en effet, belle lignée. J'ai connu autrefois un de la main, il y a 10 ans. Un parent à vous, peut-être. C'était au siège d'Angers, où j'étais partie avec la noblesse de ce pays pour grossir l'armée que le roi Louis XIII envoyait contre la reine-mère, l'année fatale qui... Mais pardon, je ne me suis pas présentée. Athos, pour vous servir.
Merci beaucoup pour cette lecture, Isabelle Stieb, où on voit justement comment on passe d'un monde à l'autre. Alors, votre Camille, elle s'est faite agresser en bas de chez elle, elle habite rue Férou, c'est pas pour rien. La rue existe encore, c'est dans les Trois Mousquetaires, la vie où la rue où Athos réside. Elle se réveille, et elle se réveille comment ? Dans un autre temps, avec un autre personnage, elle se réveille avec un mouchoir sur son front. Et rien que l'idée de ce mouchoir, on voit bien qu'on est dans les Trois Mousquetaires.
Oui, parce que c'est un mouchoir en fine batiste.
Le mouchoir de Baptiste.
Pour ceux qui connaissent et qui se rappellent les Trois Mousquetaires, au tout début, il y a toute une histoire. Enfin, D'Artagnan entre en contact avec Aramis à cause d'un mouchoir en fine batiste que le mousquetaire avait laissé tomber et que D'Artagnan, voulant être poli, le ramasse. Et en réalité, il compromet le mousquetaire qui avait fait exprès de laisser tomber ce mouchoir armorié.
Oui, parce que
avec des initiales.
Avec des initiales qui sont CB. Et si je me souviens bien, on se demande si ce ne sont pas les initiales de Camille de Bois-Tracy.
Oui,
qui
voilà,
justement s'appelle Camille.
Qui serait sa maîtresse.
Mais ce sont aussi les initiales de Constance Bonacieux.
Aussi.
Donc, on entre dans l'imbroglio. Mais en même temps, comme Camille de Bois-Tracy, dont on dit qu'elle a une intrigue avec Aramis, qui en avait beaucoup de toute façon, même s'il était abbé ou futur abbé et s'il finira général des jésuites, on voit bien que là, on est dans une ambiguïté totale. Et en particulier, une ambiguïté de genre, puisque Camille, la vôtre, celle de votre roman, elle s'évanouit, jeune femme, et elle se réveille avec Athos, qui la prend pour un jeune homme.
En fait, il la prend pour un homme. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ce jour-là, elle portait un pantalon, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais qui se faisait beaucoup moins pour une femme au XVIIe siècle. Donc, la voyant avec un pantalon, on est dans le noir. On peut imaginer aussi qu'elle avait peut-être une queue de cheval en arrière. Enfin, donc il pense que c'est un homme. Elle essaye de le détromper, mais elle n'y arrive pas. Et finalement, tout au long du roman, elle est bien sûr ennuyée de mentir à Athos, qui est un personnage qu'elle admire, mais d'un autre côté, ça l'arrange bien qu'il la prenne pour un homme, parce que comme elle connaît son antipathie pour les femmes, elle se dit que si elle lui révèle son vrai sexe, sans doute qu'il ne lui
adressera plus la parole. Oui,
il ne lui adressera plus la parole, ou en tout cas, elle ne pourra plus chevaucher.
Elle ne pourra plus chevaucher de la même façon, en tout cas. Et comme c'est le beau ténébreux, il a eu des expériences amoureuses, en particulier avec Anne de Beuil, qui se révèle être Milady. Et c'est vrai que l'éternel féminin a de mauvaises couleurs dans les Trois Mousquetaires, en tout cas avec cette Anne de Beuil. Mais on voit bien là qu'il y a des balancements constants d'une époque à l'autre, d'un sexe à l'autre et d'une muraille à l'autre, d'une certaine façon. C'est ça qui vous a plu, le jeu de miroir, c'est d'être... Non seulement il y a le jeu de miroir, mais il y a le miroir lui-même. C'est ça l'idée du passe-miraille, c'est qu'on est entre les deux.
C'est ça, et puis c'est aussi jouer avec un roman qui est très célèbre et avec un petit peu les failles de l'histoire ou du roman lui-même. Et je crois que Alexandre Dumas aimait beaucoup ça. Je pense souvent à c'est dans 20 ans après, cet épisode.
Ah, vous dites 20 ans après?
Oui.
Vous faites la liaison?
Oui, pourquoi?
J'avais jamais pensé qu'on pouvait dire 20 ans après. Moi, j'ai toujours dit 20 ans après.
Ah, bon. En tout cas, 20 ans après, c'est vous qui avez raison, après, hein. Il se trouve que après la mort du roi Charles Ier, Dumas imagine Dumas en fait se dit qu'est-ce qu'a voulu dire Charles Ier en disant pour la dernière fois, en adressant cette parole à son peuple ou peut-être à quelqu'un d'autre, remember, souviens-toi ou souvenez-vous. Et c'est plus tard. Enfin, au fil de 20 ans après, et puis au fil de 20 ans après, que Dumas donne une explication. En réalité, Charles Ier se serait adressé à Athos et lui aurait dit « Souviens-toi que j'ai caché 2 millions dans mon château à Newcastle, et si jamais la restauration vient un jour, tu pourras dire à mon fils que j'ai caché ces millions. » Et je trouve ça formidable, si vous voulez, parce que c'est ça aussi la liberté du romancier, c'est de s'emparer un petit peu d'une faille de l'histoire ou d'un mystère pour créer une nouvelle histoire à partir de ça. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait dans ce roman, parce que à la toute fin des Trois Mousquetaires, Dumas nous dit que, mais c'est vraiment en quelques lignes, que Athos est resté encore quelques temps au service de D'Artagnan qui montait en grade, et puis qu'ensuite il a fait un héritage et il s'est retrouvé en Touraine pour y vivre. Et finalement, il faut attendre 20 ans après pour savoir ce qui se passe donc 20 ans après, mais on ne sait pas ce qui se passe pendant cette petite période de 5 ans où Athos est resté aux ordres de D'Artagnan. Donc ça m'a amusé d'imaginer un petit peu une suite à ça, et je m'aperçois...
Vous avez cherché un chaînon manquant, voilà, entre 20 ans après les Trois Mousquetaires.
Un petit peu, et surtout il fallait quand même qu'il y ait un enjeu, parce qu'il fallait donner quand même une aventure assez palpitante à Athos. Et je m'interroge sur cet enjeu, et tout à coup je découvre que Louis XIII, lorsqu'il était à un moment à Lyon, a failli mourir. Et vraiment, enfin, on croyait quasiment mort, puisqu'il a reçu l'extrême onction, enfin c'était très grave. Et tout à coup, on lit ça dans les annales, tout à coup, en un jour, boum, il recouvre la santé, et on ne sait pas par quel miracle. Et je me suis dit, mais ça, c'est formidable, cet épisode, parce que je vais justement trouver une histoire, je vais inventer une histoire qui va expliquer pourquoi il s'est senti mieux.
La sonnerie de Sainte-Geneviève dans la danse des mots, un extrait donc de la musique enregistrée pour le film Tous les matins du monde, avec cet extrait du compositeur Marin Marais, qui était dirigé par le violiste Jordi Savall. Alors, Isabelle Stieb, ce qui est intéressant et ce qui est amusant d'ailleurs dans votre roman, c'est le pastiche du style de Dumas et comment il empiète ou pas sur un style plus contemporain et tout à fait différent. Par exemple, je vais lire un extrait, mais juste quelques phrases, qui je pense sont de vous, à moins que vous étiez...
Vous
allez me dire si vous les avez piochés ou pas. Pour toute réponse, D'Artagnan s'inclina respectueusement. Si impressionnable que fût le mousquetaire, il ne put s'empêcher de frissonner tant l'œil scrutateur de son éminence lui rappelait la première entrevue qu'il avait eue avec lui.
Non, c'est de moi, mais c'est vrai
que c'est... Je pensais bien.
Oui, c'est
parce
vrai
que la suite de la phrase, on voit bien que c'est pas
oui,
du Dumas.
Oui,
mais le début, on s'y trompe.
Oui, c'est comment dire. Bon, c'est vrai que c'est aussi un auteur que je connais bien. Il y a plein de tournures qui lui sont vraiment, qui lui sont propres, qui lui sont familières. Mais après, ne faire que un pastiche de Dumas, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas, parce que je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut plus écrire à la manière
du XIXe siècle.
Voilà,
oui,
on peut s'amuser à faire un pastiche, mais un pastiche sur toute la durée, ça m'intéressait pas tellement non plus. Justement, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ça m'amusait vraiment de varier les époques et aussi les styles, parce que du coup, je trouve que l'exercice de style est plus riche, plus intéressant.
Mais de toute façon, c'est une écriture à double détente, puisque vous pastichez Dumas, mais lui-même donne une image très fantasmée de ce que c'est que l'écriture du XVIIe siècle. Il n'écrit pas du tout comme Mademoiselle de Scudéry ou comme les personnages, comme les écrivains du XVIIe siècle. Mais il n'écrit pas non plus comme un écrivain, comme un autre écrivain du XIXe. Et dans Les Mousquetaires, dans 20 ans après, dans Bragelonne, il y a un effet d'archaïsme inventé par Dumas.
Oui, c'est ça qui est très fort avec lui, c'est qu'on a l'impression qu'on est au 17e, mais si ce 17e nous paraît si familier et si compréhensible, c'est sans doute parce que justement c'est un 17e plus moderne. Vous avez passé des musiques de Marin Marais, vous auriez pu passer aussi, je sais pas moi, du théâtre du 17e avec cette prononciation baroque comme certains aujourd'hui la restituent. C'est vrai que ça n'a pas la même immédiateté de compréhension qu'on peut avoir.
Non, parce qu'Alexandre Dumas, il ne travaille pas sur un instrument ancien comme font
non,
les
absolument.
Musiciens baroques d'aujourd'hui. Il travaille avec ses instruments qu'il archaïse, mais il ne cherche pas tellement
voilà,
la vérité.
Donc ça donne une couleur un petit peu véridique au 17e, mais on n'est quand même pas dupe que ce n'est pas complètement le 17e, et heureusement.
Oui, alors on a ça dans la syntaxe, par exemple, si peu impressionnable qu'il fût, mais on a ça dans les attitudes. Il ne put s'empêcher de frissonner. Mais chez Dumas, on frissonne tout le temps. Oh, il n'y a pas que chez lui, hein, chez tous les auteurs du 19e qui font du roman historique. On a ça tout autant chez Michel Zévaco. Hein.
Oui.
Il frissonna, il tressauta, et plus encore, il tressaillit. Et derrière il tressaillit, on a il blêmit, il rougit. Bon, avec ces deux changements et ces cinq ou six verbes, on a toute la psychologie du roman historique
c'est
français.
C'est vrai, et aujourd'hui on ferait plus ça, parce que si j'écrivais comme ça au XXIe siècle, je pense que mon éditeur ou mon éditrice me dirait « mais non, mais ça c'est trop cliché ». Et donc c'est impossible aujourd'hui, mais quel plaisir de se permettre ça, justement, de se permettre d'employer ces mots, ces états.
Et de parler aussi, parce qu'on a ça dans les dialogues. Le premier que vous donnez commence par « Ah, ça !» Et bien, quand on dit « Ah, ça !» dit D'Artagnan, dit Athos, dit Monsieur de Tréville, bon, dit l'homme de main.
On est chez Dumas,
ça c'est sûr. Ça vous est venu, vous vous êtes laissé aller justement. Qu'est-ce qui est apparu quand vous écriviez à la Dumas? Est-ce que vous laissiez remonter des souvenirs d'enfance et des souvenirs d'imprégnation des Trois Mousquetaires? Ou bien est-ce que vous inventiez carrément? Quelle était la posture stylistique que vous aviez, Isabelle Stieb?
Je crois que justement, il n'y avait pas de posture, dans le sens où ce sont des livres que j'ai tellement lus et relus que finalement, ça venait assez naturellement. Et finalement, sans même forcément avoir besoin de relire ces livres, c'est vraiment, je crois que c'est comme un petit peu une deuxième langue ou une autre langue maternelle en fait.
Ouais. Tout de faire qu'il fût. Athos voilà, fut parcouru d'un frisson. On retrouve le « tout de faire qu'il fut », qui est à peu près la même syntaxe que la phrase précédente.
Mais oui, on retrouve...
Et puis, fut parcouru d'un frisson.
Oui. Et puis, on retrouve le plaisir des imparfaits du subjonctif. Enfin, toutes ces choses qu'on peut difficilement se permettre aujourd'hui, sauf va vouloir faire un petit peu archaïsant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu une seconde langue Dumas.
Et ça s'est échafaudé sur des souvenirs personnels.
Oui, parce que enfin, vous parliez de l'enfance. C'est vrai que c'est très présent. D'abord parce que j'ai découvert ces romans quand j'étais enfant, mais aussi parce que avant de m'endormir, en fait, très souvent, j'imaginais des histoires à partir de mes romans préférés. Et quand on est gamin, je pense qu'on a besoin de s'identifier à des personnages. Et pour une petite fille, c'est pas évident de s'identifier à un autre personnage féminin. Vous prenez les Trois Mousquetaires, on a qui comme femme? On a soit Constance Bonacieux, mais bon, qui n'est pas très intéressante, qui est un peu naïve, un peu bon. Et puis on a
Milady, elle est vraiment trop méchante. Qui, et après ça, on a Anne d'Autriche, voilà. Et puis c'est à peu près tout.
Et c'est
hein.
tout. Ouais. Et donc je m'étais inventé ce personnage de femme qui se fait passer pour un homme.
Mais
parce
c'est
que
vrai que chez Dumas, on parle beaucoup de femmes, mais on voit que des hommes pratiquement.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas de mousquetairesse, hein.
Oui, non.
Enfin, jusqu'à
ce
qu'on découvre la vôtre, oui.
Oui, oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça nous, cette lacune est plus difficile pour nous à accepter parce que le statut de la femme a changé et que on a besoin d'héroïnes
plus autonomes.
Oui,
votre Camille, elle traite Athos de macho à un moment.
En même temps, c'est sa fille.
Oui, c'est sa fille. Bon, mais elle est avocate. Et là aussi, elle joue avec les mots parce qu'elle dit « il ne faut pas dire la vérité, il faut convaincre ». Comme le dit l'une de ses homonymes dans un film tout récent, qui vous a peut-être inspiré ou pas, où on voit un personnage, en tout cas une interprète qui a le même nom, qui est Camilla Giordana, qui joue le rôle d'une jeune avocate.
Ah oui, je l'ai vu après, oui, qui est un très bon film d'ailleurs.
Le roman Ivre, un roman d'Isabelle Stieb, donc, qui vient de paraître chez Robert Laffont et où on croise des personnages extrêmement nombreux, des personnages bien entendu qui sortent des Trois Mousquetaires, mais on a toute une littérature qui apparaît là-dedans puisqu'on voit Belle du Seigneur, le Solal d'Albert Cohen, parce qu'on voit Madame Bovary et parce qu'on voit le Comte de Monte Cristo. Le roman ivre, donc, qui nous a guidés pendant toute cette danse des mots. Le roman ivre d'Isabelle Stieb, qui fait bien sûr référence à Rimbaud, mais Rimbaud apparaît bien peu à part ce titre. Merci encore d'avoir été dans cette danse des mots qui est proposée, comme d'habitude, par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.